Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On ouvre une page politique et on reçoit sur le plateau une représentante de la liste Lutte ouvrière pour les élections européennes. Elle s'appelle Chantal Coquille. Bonjour madame.
Bonjour madame, merci de me recevoir.
Mais merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Lutte ouvrière pour Mayotte, on vous connaît pas beaucoup, les plus anciens d'entre nous, les plus, personne aimant la politique. On connaît Arlette Laguiller, ça fait un petit moment qu'elle a maintenant arrêté la politique. Lutte ouvrière, globalement, c'est quoi madame Coquille?
Alors, Lutte ouvrière, notre représentante nationale qui a été candidate aux deux précédentes élections présidentielles est Nathalie Arthaud, qui a donc pris la succession de Arlette Laguiller. Mais contrairement à ce que vous venez de dire, Arlette Laguiller n'a pas arrêté la politique. Ah. Et d'ailleurs, elle est sur la liste des européennes en 81e position et nous en sommes très honorés.
Eh bien, écoutez.
Voilà. Alors, Lutte ouvrière, puisque... Oui, pour se faire un peu connaître, nous sommes un groupement, un parti politique qui se revendique des courants communistes internationalistes. Nous, dans notre filiation, il y a la Commune de Paris, il y a la Révolution russe, nous sommes dans le camp des travailleurs. Nous pensons que l'avenir de la société devrait être entre les mains des travailleurs qui font tout fonctionner. C'est eux qui nous éduquent, qui nous soignent, qui bâtissent nos maisons, qui construisent les routes, etc. Ils font tout dans la société, mais sauf une chose, ils ne décident de rien. C'est d'autres qui décident pour eux. Donc là, il faut prendre conscience de ça et participer à une campagne électorale pour nous, ça participe de cette idée de s'adresser à la conscience des travailleurs, à la conscience de la population, prendre conscience de dans quel monde nous sommes, quelles sont les forces sociales, quelle est la force qui pourrait renverser les choses, qui pourrait inverser cette anarchie du système qui produit à l'aveugle pour faire du profit et pas du tout pour satisfaire les besoins élémentaires de la population.
Alors, voilà. Madame Coquille, on l'a bien compris, vous l'avez dit, vous vous positionnez dans une mouvance communiste internationale, donc plutôt de gauche. Mmh. Quels sont vos liens? Est-ce que vous partagez les idées de la France insoumise?
Alors, nous sommes internationalistes et justement, la France insoumise, comme la plupart des autres partis d'ailleurs, se situe sur un terrain nationaliste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un patriotisme économique, ça veut dire revendiquer de produire français, ce qui, à notre sens, est complètement ridicule, parce que la plupart des objets, que ce soit les voitures, quels que soient les produits dont on parle, en général, ils sont produits par différentes parties du monde, soit
bien sûr.
L'extraction du produit, soit par le travail, soit, etc. La plupart des choses, même en Europe, je ne parle même pas de ce qui est produit en Chine, etc., mais même en Europe, et des composantes de voitures qui sont produites en Pologne ou en Roumanie, assemblées ailleurs, etc. Donc, cette idée de produire français, par exemple, est une idée réactionnaire. Quand on regarde ce qu'est l'économie mondiale, complètement, justement, il n'y a pas de frontière à la circulation des marchandises et des produits, mais on veut en mettre, par contre, des frontières à la circulation des hommes. Donc, toutes ces idées-là, nous sommes en rupture totale avec y compris la France insoumise, y compris le Parti communiste français, d'ailleurs, qui a repris aussi cette litanie de « produisons français », etc., « la France d'abord », etc., qui a profité à qui? À ceux qui sont les champions du nationalisme, qui sont l'extrême droite, qui est représentée aujourd'hui par le RN, entre autres.
Alors, vous avez dit quelque chose dans votre propos, vous avez parlé de liberté de circulation des hommes. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire pour Lutte ouvrière?
Mais pour nous, c'est une... Enfin, je ne veux pas partir de trop loin, mais la Terre s'est peuplée par la circulation des hommes, d'abord.
C'est clair.
Il y aurait eu des frontières, je ne sais pas si l'humanité se serait tellement développée. Aujourd'hui, les frontières, elles ne servent qu'à défendre des intérêts particuliers qui sont les intérêts des classes dominantes dans chaque pays. les travailleurs qui croient défendre leurs intérêts en se rangeant derrière des nationalistes se trompent. Les meilleurs alliés des travailleurs, c'est les autres travailleurs. Les meilleurs alliés pour les combats à mener, pour une vie meilleure, pour de meilleurs salaires, pour ne pas être surexploités par le grand capital, je parle du grand patronat, des gros actionnaires qui mettent la planète en coupe réglée, les Total, les Vinci, les Bouygues, les Arnault, etc. Eux, les frontières, ils les ignorent totalement. Ils font leur profit, ils font leur négoce, ils font etc. et l'exploitation d'autres hommes partout sur la planète. Les frontières, on ne veut les imposer justement qu'aux populations qui sont victimes de cette exploitation. Donc c'est contraire à nos intérêts d'accepter la fermeture des frontières, de faire des Europes forteresses. En quelques 20 ou 30 ans, il n'y a jamais eu autant de murs érigés partout sur la planète pour essayer d'empêcher les peuples de circuler. C'est une aberration à laquelle on ne peut pas adhérer. Et c'est pour le monde du travail qui reprend ces idées-là à son compte, il se tire une balle dans le pied, en fait, parce qu'il s'affaiblit. Il se range derrière ceux qui les exploitent.
Mais Madame Coquille... À Mayotte, pour nous, la circulation des personnes, ce n'est pas une immigration de travail, c'est une immigration de souffrance. Hein. Les gens qui viennent des pays qui sont rongés par la guerre ou par les dictatures, et vous en avez un exemple derrière, c'est Cavani.
Oui, Cavani
toutes ces personnes-là sont des migrants clandestins ou demandeurs d'asile, enfin, ou en tout cas en situation particulièrement difficile. Nous, ça nous à Mayotte, qui vivons à Mayotte avec un titre de séjour ou avec une carte nationale d'identité, ça nous complique la vie et ça rend le développement économique et social quasiment impossible. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça chez Lutte Ouvrière?
J'en dis d'abord que je partage totalement votre sentiment. C'est vrai que vivre au milieu de la misère, etc., c'est jamais agréable. Hein. Ça, c'est justement... Moi, si je suis communiste et révolutionnaire, c'est justement parce que je suis révoltée par cette situation. Mais il y a quand même deux choses. C'est d'abord ceux qui viennent des Comores, ils sont des étrangers depuis 1995, depuis la loi Balladur. Avant, c'était les mêmes familles, ils pouvaient circuler sans visa ni rien du tout. La loi de 1995 les a rendus... en a fait des étrangers. Ce qui se passe dans l'Afrique des Grands Lacs avec les guerres, vous savez ce qui se passe là-bas, l'appropriation par des grands groupes des ressources naturelles, etc. Les guerres que ça engendre, la misère que ça engendre. Qui est-ce qui est derrière tout ça? Ce n'est pas les immigrés qui viennent ici, qui essayent de fuir la misère, c'est notre propre impérialisme, entre autres. Donc il faudrait que notre colère, elle se tourne contre notre propre impérialisme. Nos gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, qui sont là, qui ont été là sans arrêt pour défendre les intérêts, encore une fois, des grands bourgeois, des grands capitalistes français.
En attendant concrètement, toutes ces personnes, notre vie, on parlait avant le début de l'interview de l'eau qu'on n'a pas, ou pas suffisamment, ou pas tous les jours. Ça, c'est du concret, c'est du quotidien. Ce dont vous parlez, lutter contre l'impérialisme et tout ça, c'est des décisions ou des résultats qu'on pourrait obtenir sur le long terme. Mais en attendant, demain, on fait quoi?
Mais vous savez, le long terme, il est aujourd'hui, en fait. Parce que le long terme, c'est, il n'y en a plus maintenant de long terme. La crise est arrivée à un tel moment, vous vous en rendez compte, il y a la guerre en Europe, il y a Gaza, au Congo,
bah, il y a
etc.
Ce que j'allais dire, le Congo, voilà. J'allais dire la République démocratique du Congo.
La République démocratique du Congo, bon, etc. Donc, on est au
la
bord...
Somalie, ça nous concerne.
Partout dans le monde. Et vous voyez bien que tous les bruits de bottes, vous avez vu les milliards qui sont investis dans des engins de mort, dans... préparer la guerre, faire s'entretuer les Ukrainiens et les Russes, on alimente, on leur fournit des armements, mais qui c'est qui meurt sur le terrain? C'est quand même la population, aussi bien russe qu'ukrainienne.
On est d'accord.
Et c'est partout comme ça. Et c'est ça l'objectif. Donc le demain, il est aujourd'hui, en fait. Toute la politique consiste à accumuler des milliards. Les milliards qui ne sont pas investis, hein, par exemple, pour revenir à quelque chose de simple, dans l'adduction d'eau, la recherche de l'eau, des tuyaux qu'ils n'ont pas percés, qu'ils n'ont pas usés, un hôpital à construire peut-être, etc. Voilà, on ne peut pas avoir à la fois la guerre qui approche et à la fois résoudre les problèmes majeurs de la population.
Pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, là, ou nos auditeurs à la radio, et qui pourraient se dire, mais elle a raison, Madame Coquille, si les téléspectateurs, le 9 juin, vont voter pour la liste Lutte Ouvrière, qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour nous. Parce que l'URSS, pardonnez-moi, mais c'est un modèle qui fait rêver personne quand même.
Je suis d'accord. Encore, pas tout à fait. Non, pour revenir, juste voter pour la liste de lutte ouvrière le 9 juin, ce sera voté pour une liste qui ne fait aucune promesse, justement. Et je crois que les gens en ont soupé des promesses qui sont données par les candidats qui disent ben, nous, on va faire ci, nous, on va faire ça, l'Europe, ici ou là, etc. Non, et ils vont être, comme tout le monde, au pied des injonctions des grands groupes capitalistes qui décident contre tous les peuples, en fait. Donc voilà, voter pour une liste qui ne fait aucune promesse, c'est voter en conscience,
mais
oui,
en quoi,
pour
si
dénoncer
vous...
le système. Il faut commencer par avoir la conscience de dans quel monde on vit avant de chercher des solutions.
Mais et si après, attendez,
excusez-moi.
On fait
vous...
comment pour lutter contre l'impérialisme des entreprises, des grands groupes ? Parce que vous serez confrontés aux mêmes que les autres.
Alors, justement, j'allais juste compléter en disant que non seulement nous n'avons aucune promesse à faire parce que c'est ridicule, mais en plus, nous pensons que réellement, ce n'est que la mobilisation des travailleurs eux-mêmes, des populations eux-mêmes, qui sont les mieux à même de connaître leurs besoins et de faire l'inventaire de ce qu'il est possible de faire pour gérer la société autrement. Voilà, donc c'est une révolution, elle se fait avec des gens qui s'organisent, qui se donnent des objectifs en toute fraternité, en toute conscience, avec tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut, avec les satellites, savoir à l'avance combien il y aura de récoltes de blé, sur quoi on peut compter, comment on peut s'organiser, etc. Et toutes ces technologies qui sont extraordinaires, elles sont mises au service d'une seule chose, c'est réaliser des profits contre les populations. Donc voilà, c'est pas pour demain. Moi demain, j'ai pas de solution, je le dis très clairement. Ne votez pas pour lutte ouvrière si vous pensez qu'il y a des solutions pour demain. Ça, non. Par contre, vous trouverez les solutions. Si vous avez la conscience de à quoi on doit s'affronter, on trouvera les solutions. Parce que dans n'importe quelle famille, les papas, les mamans, etc., confrontés aux difficultés de la vie quotidienne, aux difficultés des fins de mois, etc., ils trouvent des solutions. Parce qu'il faut bien les trouver.
Bien
Il faut
sûr.
Bien s'occuper des enfants et des vieux, etc. On les trouve, les solutions. Eh bien, imaginez une société qui se met en mouvement en disant « voilà, ça suffit ». Ça ne peut pas durer comme ça. Ce pouvoir qui est en place, ce système capitaliste, il nous amène dans le mur, il nous amène dans la guerre, il nous amène dans le chômage, il nous amène dans la misère. Il faut que ça s'arrête.
Prenons un exemple complètement opposé à Mayotte, celui de l'éducation nationale, où là, on ne fait pas dans le capitalisme, hein, c'est plutôt l'inverse. On fait dans « je prends tout le monde et j'essaye d'apprendre des compétences, des enseignements, de transférer un certain savoir-faire à tous les enfants présents sur le territoire. » Ça marche pas. Mayotte, c'est quand on regarde les évaluations nationales, Mayotte est le 101e département sur 101. On est les plus mauvais en termes de maîtrise des savoirs fondamentaux. C'est que lycée par le bas, ça marche pas non plus.
Ah ben, moi, je n'ai pas parlé de lycée par le bas. Ce que votre exemple illustre bien le fait que dans le département français, qui est le plus pauvre, le plus jeune, où il y a le plus de chômage, etc., etc., c'est normal que le niveau d'éducation soit le plus bas. Quelque part, ça ne peut pas être autrement. Voilà,
c'est... Mais oui, mais on ouvre l'école à tout le monde. Tous les enfants peuvent venir pour essayer d'apprendre. Et ce n'est pas depuis hier, hein, ça fait un petit moment maintenant. Mais pour autant, cette méthode ne fonctionne pas puisque d'année en année, les résultats ne s'améliorent pas. On pourrait très bien se dire, oui, effectivement, on est jeune, mais on était les plus mauvais. Et puis chaque année, ça va de mieux en mieux. Mais ce n'est pas le cas.
Oui, mais vous trouvez normal que des enfants ils aient des tours d'école, enfin, qu'il n'y ait pas assez d'enseignants, pas assez, il manque un peu de tout, comme à l'image de tout le reste à Mayotte. Donc, on ne peut pas à la fois, dans n'importe quel département, la Seine-Saint-Denis par exemple, les professeurs se mobilisent parce qu'ils disent qu'on ne peut pas faire monter le niveau des enfants si on a 35 à 40 élèves en primaire. Voilà, donc on en revient malgré tout aux moyens que l'on veut mettre. Dire que tous les enfants doivent aller à l'école, c'est quand même le minimum dans la République française, etc., hein, qui a instauré l'école obligatoire depuis le 19e siècle. C'est bien la moindre des choses que tous les enfants aillent à l'école. Mais pour y trouver quoi ? Il faut des moyens à tout point de vue. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles sont certaines écoles, pas d'eau, pas de ventilateur, des conditions déplorables. Vous avez fait le tour de l'île beaucoup plus que moi, donc vous le savez beaucoup plus que moi. Vous devez faire des sujets dans vos émissions régulièrement là-dessus. Les conditions d'apprentissage sont quand même pas terribles déjà à l'école elle-même. Mais il y a l'environnement. Nos générations, l'école, elle vous garantissait une élévation sociale.
Absolument.
Aujourd'hui, l'école ne garantit rien du tout.
Parce les années 80, bah oui. encore, mais ça s'est arrêté dans les années 80, cet ascenseur social par l'école.
Donc, c'est sûr qu'on souhaiterait que les enfants, par la magie de l'enseignement, etc., soient curieux, se cultivent, etc., mais ça ne se fait pas tout seul.
Non.
C'est une réalité. Et quand la République bourgeoise française a voulu élever le niveau parce qu'elle en avait besoin pour la production, que ce soit dans les administrations, dans les usines, etc., elle a mis le paquet. Les fameux hussards noirs de la République, etc., qui étaient motivés parce que, et ils motivaient les enfants en leur disant « tu deviendras ceci, tu deviendras cela ». Vous pouvez faire ça ici à Mayotte ?
Ça me paraît difficile.
Voilà, voilà.
Alors, dernière question, parce que le temps tourne, Madame Coquille. Alors, je pense qu'on l'a à peu près bien compris dans ce que vous avez exprimé, mais je pense que quand on le formule clairement, c'est encore plus simple. Nous, on demande, la population mahoraise demande l'abolition du droit du sol, ou demande peut-être encore plus la fin du visa territorialisé. Lutte ouvrière se positionne. Comment, par rapport à ces deux mesures, à la fois la fin du visa territorialisé, vous parliez du visa Balladur tout à l'heure, on est en plein dedans, et cette abolition du droit du sol qu'a proposé Gérald Darmanin.
Alors, la fin du visa territorialisé serait une mesure de justice et de revenir à quelque chose de normal, enfin de normal, entre guillemets, mais bon...
Donc vous êtes favorable à la fin du visa territorialisé.
Oui, parce que ça bloque...
Séjour territorialisé,
Ça bloque tout le monde dans l'île.
Ici.
C'est contraire à notre conception, justement, de libre circulation des personnes. Par contre, le revenir sur le droit du sol, ça, non, là, on est complètement opposé à cette idée qui est un recul qu'on ne peut pas accepter. Nous, on ne peut pas accepter qu'il y ait des reculs dans les droits élémentaires civiques qui existent. Au contraire, il faudrait les augmenter. Vous voyez, par exemple, actuellement, en Nouvelle-Calédonie, il y a quand même une revendication d'une partie de la population, les caldoches, pour dégeler le corps électoral.
Pour pouvoir voter, tout simplement.
Pour pouvoir voter. Et là-dessus, c'est engouffré tout un tas d'interventions disant que oui, c'est pas normal qu'ils ne puissent pas voter en habitant là. Mais... dans l'Hexagone, combien de centaines de milliers de travailleurs sont là depuis des fois une ou deux générations, payent des impôts, contribuent à la vie sociale, à la vie économique, etc., et n'ont pas le droit de vote, les fameux travailleurs étrangers. Vous voyez, donc, voilà, il y a toujours deux poids, deux mesures, il y a toujours une grosse hypocrisie derrière tous ces tripatouillages sur la loi, etc. Et moi, je dis, ouvrez les yeux. On vous ment quand on prétend vous défendre avec des mesures comme ça. Hein, et ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a bien d'autres choses à faire qu'aller toucher au droit du sol, etc. Là, c'est toujours désigner les autres comme un bouc émissaire. À chacun son Comorien, comme, vous savez, vous allez avoir aussi en métropole, à chacun son Mahorais, hein, si ça continue. Donc, voilà, chacun trouvera quelqu'un qui sera un bouc émissaire. Et cette logique-là, c'est celle qui assure le pouvoir de la classe dominante. Et c'est contre ce pouvoir-là que nous nous insurgeons. Et donc, toutes ces mesures qui ne font que abaisser le niveau de conscience de la population, le niveau de conscience des travailleurs, nous sommes contre. Les travailleurs, ils doivent prendre conscience de qui sont leurs véritables ennemis. C'est d'abord les patrons qui les exploitent, et ensuite, c'est nos propres gouvernements. C'est d'abord là que sont nos propres ennemis qui, aujourd'hui, sont prêts, y compris, à nous envoyer à la guerre pour défendre leur pouvoir, le pouvoir de leur grand capitaliste et le pouvoir de leur place dans le monde. Parce que nous, on est dans un pays qui est quand même pratiquement la cinquième puissance mondiale, qui est le deuxième territoire maritime, etc. Et ça, les gouvernements de gauche, de droite en France, c'est ça qu'ils défendent aussi. Et là, derrière, ce n'est pas du tout l'intérêt des populations, est complètement secondaire. Il faut que les Mahorais soient conscients de ça. Mayotte, c'est un laboratoire pour les idées réactionnaires. C'est un laboratoire pour les reculs en arrière, au nom justement de la vie qui devient infernale, telle qu'elle est aujourd'hui à Mayotte.
Merci beaucoup, en tout cas, Madame Coquille. Quand vous revenez à Mayotte, faites-moi signe, vous êtes la bienvenue.
C'est avec plaisir.
Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.